Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de Torréfaction, parce que oui, sur Geekzone, nous on part pas en vacances, c'est pas vrai Caf?
Mais on fait pas le pont surtout.
Ouais, on fait pas le pont.
Aujourd'hui, techniquement, vous êtes censé travailler, chers
c'est
auditeurs.
Ça. Et nous on travaille aussi, petite revue de l'actu choisie pour la semaine qui vient de se dérouler. On va commencer tout de suite avec un truc assez rigolo, une histoire un peu folle, autour du nom de Dota. Dota, le MOBA que tout le monde aime détester, surtout quand on joue avec moi.
Tu dis ça parce que tu campes sous la toit.
C'est ça. Bref, il y a une nouvelle polémique autour du nom. Il y a un jugement qui est en cours pour le moment, enfin un procès qui est en cours pour le moment autour du nom aux États-Unis. Alors, deux petits avertissements. Déjà, de un, je suis pas spécialiste du droit, donc et encore moins du droit américain. Je risque de faire peut-être des petites erreurs de vocabulaire. N'hésitez pas à me rectifier. Et puis même si Dota c'est pas votre cam, la petite histoire qui suit, je pense, devrait quand même vous faire marrer parce que, enfin, toi tu la connais, elle est quand même assez hallucinante.
C'est assez rigolo.
On est à 15 ans après la création du mode et on sait toujours pas vraiment qui a les droits sur le nom. Ça a pas l'air très clair. En gros, le mode est né en 2002, c'est un mode pour Warcraft 3 développé par un monsieur qui s'appelait Kyle Sommer, Yule, qui a forqué en 2003 sur Dota All-Star, qui a été supervisé par un autre monsieur qui s'appelait Stephen Fick, alias Ginzu, qui lui, Yule faisait des trucs en solo, Ginzu il va ouvrir tout le bordel à la communauté, c'est assez important, parce qu'en 2005, donc Ice Frog, alors a priori, tu m'arrêtes si je me trompe, s'il y a des nouvelles infos, mais il semblerait que son nom ait été confirmé comme étant bien Abdul Ismail,
ouais.
Donc voilà, c'est le monsieur qui se fait appeler Ice Frog et qui avait pas mal tenu à son anonymité depuis les débuts de l'histoire du MOBA en fait.
Ah oui, mais c'était oui, enfin c'était devenu une blague. C'est toujours une blague dans la communauté d'ailleurs.
Ouais. Bref, on sait qui c'est aujourd'hui. Donc lui va reprendre le lead en 2005. Il va passer. Alors c'est pas encore super officiellement confirmé, même si a priori vu que c'est l'historique que présentent les avocats de la défense, il est passé par S2 pour bosser sur Heroes of New Art et puis il va être embauché par Valve en 2009. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué puisque en 2010, il va revendre les droits. Alors, pourquoi décider que c'était lui qui les avait, ça on ne saura jamais vraiment. Pour l'argent, pour une jolie somme à Valve qui va probablement faire travailler ses avocats à ce moment-là pour vérifier que bah, il risque pas grand-chose derrière. Pour être sûr qu'il y aura pas de soucis, en fait, ils vont même carrément embaucher Yule, Kyle Sommer, donc le développeur du mode original, pour racheter aussi ses droits, histoire de bien se blinder. Le troisième larron, Ginzu, lui, il va aller bosser chez Riot. Alors là, l'histoire est un peu plus confuse, mais a priori, considéré par Riot, comme le propriétaire historique du nom, en fait, Riot va lui dire bah, écoute, revends tes droits à Blizzard, comme ça t'es peinard, nous de toute façon ce qu'on fait ça a rien à voir, donc comme ça t'as plus de soucis, c'est ce qu'il va faire, et donc c'est comme ça que Blizzard va récupérer une partie des droits. Et en 2012 il va y avoir un accord entre Valve et Blizzard. Valve va garder en fait le droit sur le nom pour tout ce qui est jeu individuel. Blizzard lui va pouvoir s'en servir pour utiliser le titre plus exactement dans ses modes. On sait que Heroes of the Storm au début en développement, en tout cas ça s'appelait Blizzard Dota. Finalement ils ont décidé de lâcher l'affaire et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Le développement récent c'est qu'ils ont attaqué deux développeurs mobiles, Lilith et Youcool, qui les accusent de violer le copyright sur le nom. Le jeu de Lilith s'appelle Dota Legends, je pense que c'est relativement clair, et les deux développeurs en revanche eux, font valoir que c'est une attribution qui a pas été légitime, en fait que pour selon eux en fait les droits n'ont jamais été correctement attribués et qu'en gros bah Dota c'est du taf collectif, donc c'est open bar, tout le monde peut faire ce qu'on veut, y compris eux développer donc des jeux mobiles avec le même nom. Le juge qui s'occupe de l'affaire a pour le moment rejeté l'argument, confirme que bah on a pu voir à travers des recoupements etc que c'était bien le trio Yule, Ginzu et Ice Rock qui étaient les parents de Dota et que donc bah c'était à eux que revenaient les droits originaux, ce qui n'est pas encore la fin de l'histoire. Attention, il y a encore un rebondissement puisqu'on a refait remonter un post de forum du 23 septembre 2004 qui semblerait indiquer que Yule, donc le fondateur du mode original, aurait cédé publiquement ses droits à l'époque à la collectivité à partir du moment où le créditait sur tout ce qui était développé à partir de son jeu, ce que le juge n'a pas entendu non plus, puisque pour lui c'est une forme de licence limitée. En gros, pour lui c'était clair que Yule s'adressait uniquement à la communauté des modeurs de Warcraft et pas à l'ensemble du monde, et certainement pas à des gens qui voulaient faire du fric avec. Le procès est pour le moment reporté devant un jury qui va devoir trancher. c'est dans un futur proche, on n'a pas de date encore. Mais voilà, c'est pas une mince affaire, et quelque part, il peut y avoir des implications quand même, si Valve, alors ce qui est peu probable, mais si Valve perdait la patte, enfin, le droit de jouissance sur le copyright, sur le nom, ça pourrait être quand même un petit peu compliqué, non?
Bah, c'est surtout que ça implique beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que là, c'est que le nom, mais ça implique le nom des héros, ça implique le gameplay.
Ils ont pas déjà négocié avec Blizzard, justement, pour le nom de certains persos?
Bah oui, mais le problème, c'est que la négo, elle est aussi floue que pour le reste. Donc, ouais. Au final, on est quand même sur, on marche sur des œufs, et que c'était un truc effectivement développé par des amateurs à la base, qui n'ont jamais fait de boîte ou déposé quoi que ce soit, etc. Donc, c'est un peu le bordel. Et puis, c'est un procès qui est important parce que ça va faire jurisprudence pour plein d'autres trucs. Enfin, plein d'autres trucs. Des cas à la Dota aussi gros, il y en a vraiment pas beaucoup. Mais c'est important de voir comment ça va être tranché, quoi.
Ouais. Et je pense qu'on n'a pas fini dans le temps de parler. On va rester sur le gaming avec Gwent.
Oui. Alors ça, c'est le jeu de cartes de The Witcher qui sort en bêta ouverte là maintenant tout de suite. Ça y est, vous pouvez aller sur le site officiel et récupérer ça pour tester la bête. C'est un jeu dans la lignée des Hearthstone, Duelist, Shadowverse et compagnie. C'est
très bien Duelist.
Et voilà, donc Duelist, ça défonce. C'est un des meilleurs. C'est un des plus méconnus et un des meilleurs du marché actuellement, sauf si vous êtes complètement allergique au pixel art, ce que je peux comprendre. Et les retours sont plutôt bons pour ce Gwent qui m'a l'air un petit peu touffu quand même au départ, et les parties ont l'air un peu longues, donc méfiez-vous. Mais comme c'est gratuit, bah allez tester.
Et puis deux autres petites news gaming avec Prison Architect. Architect, pardon.
Oui, alors ça, c'est un jeu qui était sorti il y a 1000 ans en pseudo Early Access. Je sais même pas si on appelait ça déjà l'Early Access pour te dire à quel point c'est vieux. Qui était sur PC, en quel j'ai joué à ses tout débuts, et j'avoue humblement ne pas y avoir en fait trop touché, alors qu'il était bien plus finalisé. Ouais. Ça m'avait un peu saoulé après, mais le concept est très simple. Hein, comme son nom l'indique, vous êtes le patron d'une prison. Et vous allez la construire jusqu'à la petite chambre pour les petites exécutions, n'est-ce pas? Donc effectivement, il faut être un peu dans le mood. Mais si quelqu'un vous ennuie au travail, c'est très bien, parce que maintenant la version arrive sur mobile, mais attention, pas partout, uniquement sur tablette, parce que ceux qui connaissent le jeu ou l'interface, bah vous vous doutez bien que sur un téléphone, ça va être compliqué. Donc là, ils ont fait le choix d'être uniquement sur iPad et sur tablette Android.
D'accord. Et puis Respawn qui va lâcher un nouveau Titan.
Oui, alors c'est un nouveau DLC gratuit pour Titanfall 2, qui va sortir le 30 mai, donc mardi. Et déjà, je redis une fois de plus que si vous ne jouez pas à Titanfall 2, eh bien, vous avez raté votre vie FPS.
C'est vrai que le 2 est vraiment chouette. Enfin, moi, j'ai bien accroché à la campagne solo. Après, je suis moins fort en multi, mais la campagne solo m'avait bien fait triper.
Mais c'est parce que tu campes sous la tour.
C'est possible. On y revient.
Ok, il n'y a pas de tour, mais vous avez compris. Non, franchement, c'est un excellent FPS. Et là, ils ont rajouté un truc rigolo qui donc va sortir mardi, qui est un Titan qui s'appelle le Monarque, qui pourra s'upgrader avec des bidules qu'on va récupérer sur le terrain. Et j'espère qu'il se transforme en Ultron à la fin et qu'il explose tout. Donc moi, j'ai hâte de voir ça. Et comme c'est gratuit, voilà, c'est le moment de dépoussiérer votre copie si vous l'avez récupéré en promo. Si vous l'avez pas, il s'achète pour une somme absolument dérisoire vu la qualité du jeu. Et même si vous ne touchez jamais au multi, comme vient de le dire Fask, le solo défonce, go, allez-y.
Voilà, donc Titanfall nouveau, Titanfall 2 même, nouveau Titan le 30 mai. Et puis on va passer du côté des apps en vitesse. Je voulais vous parler de Dosebox pour une raison bien particulière, c'est qu'on a fait une grosse plongée nostalgique sur Geekzone en ce moment, avec un dossier qui faisait le flashback sur les trackers. Et puis toi, tu nous avais présenté un outil pour écouter ces vieux modes et ces vieilles musiques qu'on composait sur 4 pistes au début, puis 8, puis 16, puis 32. C'était la folie.
Sur iOS.
Voilà, sur iOS, c'est ça. Et ici, en l'occurrence, c'était sur PC, les trackers, hein, Fast Tracker 2, Scream Tracker 3. Enfin bref, je vous invite à aller lire le dossier, j'ai fait un peu le topo sur le sujet. Mais du coup, je me suis dit qu'il y en avait peut-être certains d'entre vous qui voulaient tester ces softs. Et bon, c'est difficile de les lancer aujourd'hui dans un Windows 10 natif, donc vaut mieux passer par Windows Box. Et je me suis dit, peut-être que vous allez être confronté au même choix que moi, à savoir quelle release, quelle version on choisit de Dosebox. Alors il y en a plein, il y en a des modernes, et moi je vais vous en recommander une qui est pas mise à jour depuis 2015, mais vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait c'est la plus simple à utiliser pour ceux qui ont comme moi une passion assez particulière du rétro gaming, qui consiste à lancer des jeux pour voir à quoi ils ressemblaient et puis à y jouer deux minutes et à passer à autre chose. Donc pas des gens qui veulent vraiment, je sais pas, une émulation parfaite ou un truc qui marche clé en main. C'est la SVN Dome de de DOSBox, je vous enverrai les liens sur le forum, qui permet donc d'installer une DOSBox avec une émulation 3DFX native. Alors c'est pas la top of the pop émulation Glide, hein, il y en a une meilleure qui s'appelle Nglide, mais c'est pour les gens qui ont vraiment envie d'avoir un truc clé en main, qui s'installe, qui marche tout de suite et sur lequel on peut faire tourner des jeux en plus 3DFX, pour regarder que c'était finalement assez moche et revenir à nos jeux modernes très très vite, comme c'est souvent le cas quand je le fais. J'en profiterai la semaine prochaine, dès que j'ai l'occasion, de vous caler un petit tuto rigolo pour émuler une Gravis Ultrasound en DOSBox avec tous les samples d'origine qui vont bien. On a les archives qu'il faut pour ça. On va vous permettre de le faire. Vous allez voir que c'est assez rigolo et puis que le son était quand même assez balèze pour l'époque. Hein.
Non, il était pas balèze, il était extraordinaire.
Voilà.
Tu fais saigner mon cœur parce que c'est mon premier papier publié dans un Canard PC en 1993. C'était sur tous les utilitaires de la Gravis Ultrasound.
Ah, j'ai eu une relation difficile avec la Gravis Ultrasound, mais j'en reparlerai dans le papier justement. J'aurais bien voulu que ça marche et ça n'a pas marché pour moi.
Ouais, bah ça a fonctionné, elle m'a donné mon premier boulot. Attends, je peux rien lui dire.
Et on va rester dans les bons sons et on va passer du côté de la culture. Je voulais vous faire écouter cet extrait merveilleux de la bande-son du futur Spider-Man qui sort mi-juillet chez nous, qui a été diffusé par le compositeur Michael Giacchino, je sais jamais comment on dit, qui était déjà le responsable de l'excellente bande-son de Doctor Strange, qui bosse pas mal avec J.J. Abrams, qui a signé aussi notamment la musique du reboot de Star Trek. Là, il est parti carrément sur un hommage au thème original de la série animée fin des années 60, je crois que c'était 68-69, le thème original donc de Paul Francis Webster et Bob Harris. Ça dure 37 secondes, on va l'écouter tout de suite juste parce que c'est génial.
On n'a jamais eu Spider-Man a marché sur une peau de banane avec autant de classe.
Là, c'était ta variante, toi. C'est marrant, il y a eu tellement de variantes de cette chanson.
Ah, dans les cours de récré, c'était un truc de fou.
Hein. Ouais, c'était iconique d'une époque, hein, l'époque du dessin animé Spider-Man. Il faut savoir que c'est pas la première fois que le thème originel du dessin animé figure dans un film. Je crois qu'il est dans tous les films Spider-Man jusqu'ici. Mais c'était souvent dans des versions un petit peu revues et corrigées, des petits hommages, des petits clins d'œil, plus que réellement intégrés à la bande-son. Là, a priori, Michael Giacchino est parti sur une version full old school. Et je trouve ça plutôt réussi. J'avais envie de vous le faire écouter comme l'actu était un petit peu plus calme côté culture cette semaine et que je ne voulais pas forcer CAF à réécouter mes longues diatribes sur Twin Peaks saison 3.
Attends, j'ai flippé moi toute la semaine quoi.
On va passer à la suite tout de suite avec le hardware et ça c'est ta chasse gardée.
C'est ma croix tu veux dire.
C'est oui aussi.
Alors avec une excellente nouvelle cette semaine en fait qui concerne le Thunderbolt 3 de chez Monsieur Intel. Mmh. Je vous réexpliquerai pas quand même avec des auditeurs de Geekzone ce qu'est le Thunderbolt, mais quand même vite fait. Alors c'est une interface de connexion on va dire pour pouvoir brancher plein de périphériques de toutes sortes sur nos ordinateurs. Mmh. Quand je dis de toutes sortes, c'est pas juste des clés USB pourries, hein, ça va jusqu'aux écrans, des cartes graphiques externes, c'est extrêmement versatile, c'est très rapide, parce que la dernière mouture du truc va jusqu'à 40 gigabits, donc ça envoie un peu de patate.
Oui, quand même.
Voilà, sauf qu'il y avait un petit problème, c'est que pas grand monde l'intégrait dans ses machines, parce que on le réservait au haut de gamme, c'était cher, il fallait payer les royalties à Monsieur Intel, il fallait intégrer une interface en plus, il fallait avoir le chipset donc qui allait bien, ouais. Et on trouvait ça sur des machines un peu haut de gamme, sur les Mac, sur des PC un peu boostés, etc. Et ça commençait à saouler Monsieur Intel, qui voyait la chose partir dans le mur après des années d'efforts et finir un peu comme le FireWire qui est décédé alors que c'était super bien le FireWire, mais bon, voilà, c'est pareil, il n'a pas trop résisté au temps et aux royalties, pareil. Me semble-t-il. Et là, cette fois, Intel a carrément décidé de virer toutes les royalties dès 2018. Il faut que je vérifie la date, mais c'est pas tout de suite, mais ça va être mis en place très rapidement. Mmh. Et l'autre changement qui transforme la donne, c'est qu'ils vont intégrer le contrôleur pour ce truc-là directement dans leur processeur.
Ah ouais.
Donc, du coup, il va y en avoir partout. J'imagine qu'il y aura un système pour que un monsieur AMD, par exemple, puisse le mettre, puisque si c'est royalty free, j'imagine qu'il y aura peut-être moyen de moyenner. Mmh. Et la grosse annonce de cette semaine, c'est ça, et quand on n'est pas dans la tech, bah, ça passe un peu sous silence, on va dire. Mais c'est aussi c'est quelque chose qui va avoir un impact, en fait, très fort sur les années à venir.
Mmh. Ça veut dire qu'on va changer nos connexions, enfin, nos connectiques, en fait.
On va les faire évoluer. Il faut savoir que depuis que la dernière norme est compatible avec, les connecteurs ont la même tête, en fait, que l'USB-C.
Mmh.
Donc, globalement, les deux protocoles peuvent cohabiter sur la même prise.
D'accord.
C'est le cas sur les derniers MacBooks. Donc, enfin, en termes de périphérique avec les bons câbles, c'est transparent. Ça, c'est dans le monde idéal. On n'y est pas, parce qu'évidemment, il y a des mecs qui vont te vendre des câbles qui ne font que de l'USB, qui font pas tous les trucs de l'USB, du Thunderbolt avec ce format-là.
Ouais.
Donc, évidemment, c'est encore un peu compliqué parce que c'est un peu jeune, c'est le début. Mais c'est quelque chose qui va être, à mon avis, hyper important pour les années à venir.
Bon, écoute, c'est noté. Donc, on va tous passer au Thunderbolt dans pas longtemps. Si tout va bien, 2018, c'est ça que tu disais?
Exactement. Donc, ça sera l'année prochaine. Et après, il faut voir un peu à quelle vitesse tout le monde va s'y mettre. Mais si Intel met ça directement dans le processeur, bah, ça va être très vite réglé.
On va passer du côté de la tech avec un petit rappel d'un papier que tu as signé cette semaine sur Geekzone. Un papier sur les flux JSON. On dit JSON, je sais jamais.
Je pense que c'est JSON, mais JSON. Comme j'en sais rien, c'est JSON, film d'horreur.
C'est ça.
Mais je pense que c'est plutôt JSON, mais écoute, on va se faire reprendre de voler dans le forum si c'est pas ça. Hein, on va être au courant très vite.
Sinon, tu me fais les deux et puis je fais un montage en fonction des réactions, je ferai vite un edit.
Avec un petit bit, s'il te plaît.
C'est ça.
Tu vois. Je pense qu'on peut faire un truc qui déboîte.
J'ai que ça à faire.
Bah oui, attends, tu dors pas en ce moment.
C'est vrai.
Mais donc, c'est le JSON feed dont j'ai parlé dans une petite news cette semaine. Sur lequel on s'est un peu accroché avec certains sur le forum, justement sur l'intérêt de ce nouveau format, puisque ma news n'était pas très complète, donc c'était aussi normal que soulève quelques interrogations. Et derrière, nous avons eu des professionnels de la profession qui sont venus nous expliquer les vrais intérêts d'un point de vue technique, déjà de ce que ça rajoutait par rapport au format RSS classique, parce que bon, j'ai oublié de vous dire, mais donc c'est un format de syndication pour publier, quand on fait un site web, son contenu qui est récupérable par des lecteurs tiers. Donc là, on appelle ça des lecteurs de RSS d'habitude, mais bon, pour appeler ça des lecteurs de JSON, maintenant, de JSON feed plus exactement, parce que JSON c'est un format, encore un truc qui dont émane ce format-là.
Mm-hmm.
La grosse nuance, et pourquoi j'en parle dans le podcast, c'est que en fait le combat final de l'histoire, tu vois, le côté Avenger du truc, c'est de lutter contre la centralisation du web, et donc de ne pas se nourrir uniquement des informations qu'on a grappillées sur Twitter, sur Facebook, et donc de ce qu'ils ont bien voulu nous publier, c'est-à-dire là, il faudra réécouter mon coup de gueule sur le classement automatique, le tri automatique de ces mecs-là, qui est pas forcément à votre avantage.
J'ai l'impression que c'est de pire en pire sur Facebook, c'est de plus en plus rapidement rebasculer sur le top stories plutôt que sur le
ça me rend fou. C'est une horreur, mais c'est un autre problème. On s'est déjà vénère sur le sujet, c'est mais c'est vraiment super pénible. Moi, je vois toujours les mêmes mecs, donc comme ça, c'est pratique. Et pourquoi j'en parle, c'est parce qu'en plus Facebook, qui a son propre système de publication de news, alors qui est pas, c'est très éloigné du truc, hein, mais qu'ils avaient essayé d'imposer avec les instant articles, pour que les publications un peu mainstream affichent directement leurs news, leurs papiers dans Facebook, en fait, sans ouvrir le site web. Ce truc-là, en fait, ne marche pas parce qu'il y a plein de problèmes au niveau de la pub, les mecs veulent garder le contrôle de leur lectorat, etc. Et du coup, ils ont rajouté une fonctionnalité qui est assez marrante et qui est assez dangereuse aussi, qui va être de balancer directement, quand tu, par exemple, tu es Le Monde, tu publies sur Instant Article chez Facebook le truc, et ben tu pourras pousser aussi cet article sur Google News et sur Google AMP.
D'accord.
En même temps, à partir du même contenu, donc t'as pas trois fois la manip à faire si tu veux. Et ça, c'est un move intéressant de la part de Facebook. C'est aussi l'aveu que leur truc marche pas et qu'ils sont un peu obligés d'essayer de se poser comme hub pour le reste. Mais ça reste hyper dangereux puisqu'on revient dans les mêmes travers de
l'info filtrée, la bulle d'information,
l'info filtrée centralisée, et du coup de perdre le contrôle de son info, puisque tout le monde passe aujourd'hui, il faut pas se leurrer, si les sites web vous abreuvent, nous les premiers, de trucs sur Facebook alors qu'on n'y est pas en tant que personne, je veux dire, très peu, c'est justement pour donner de la visibilité à son contenu. Et si des trucs comme le JSON feed fonctionnaient et qu'ils étaient intégrés de mieux en mieux et avec des outils de plus en plus sympas, de manière un peu éclatée sur différentes plateformes, on éviterait un peu la catastrophe qui est en train de se profiler.
Voilà, et puis si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller relire le papier donc que tu as fait cette semaine sur Geekzone sur le sujet, et puis le forum aussi, puisqu'évidemment on est toujours notre illustre communauté qui vient y mettre son grain de sel, et on y apprend souvent plus de choses qu'on en connaissait après avoir écrit l'article.
Ah oui, là, ouais.
c'est toujours intéressant. Donc voilà, ça c'est le Jason. On peut poser la question aussi, tiens d'ailleurs.
Je pense que c'est Jason, mais bon, si j'ai tort, je vais avoir l'air mal. Hein. Ce sera pas la première fois, c'est pas grave.
Ouais, tu vas pouvoir te défouler maintenant en poussant ton coup de gueule. Là.
On va me dire oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Alors, le coup de gueule de Jean-Pierre Caff, c'est quoi? C'est sur Microsoft que tu tapes aujourd'hui.
Oui, mais par extension, ça va être sur plein de monde et ça va faire du bien. Parce que cette semaine, dans la tech, j'en ai pas parlé, mais il y a eu la nouvelle Surface 4 Pro d'annoncer par monsieur Microsoft. Donc, vous connaissez tous cette tablette, vraiment pas mal d'ailleurs. Tablette pour faire tourner Windows 10, qui est excellente, tactile, légère, avec une autonomie de ouf dans la nouvelle version. Des nouveaux processeurs sans ventilo. Le monde, il est beau, le monde, il est gentil. Et tout ça à partir de $799, la vie est belle. Sauf que non. Parce que si t'achètes, monsieur auditeur, et je t'ai tutoyé, je déteste ça, mais hein, tu m'excuseras pour cette fois. Si tu achètes cette chose à $799, eh ben, tu te fais avoir par le marketing. Parce que c'est une merde, j'ai pas d'autre mot, hein, à $800, mais avec 4 gigas de RAM. 4 gigas de RAM sur un truc à $800. Aussi moderne soit-il,
ouais,
pour faire tourner Windows 10.
C'est un petit peu petit.
Et c'est rien de le dire. Donc, le coup de gueule de la semaine, c'est juste sur toutes les bécanes qui sont censées faire tourner Windows avec 4 gigas de RAM. Il y en a encore plein en vente partout. Ouvrez vos navigateurs et allez checker vos vendeurs préférés. Et ça, il y en a marre. Genre, tout le monde gueule sur Apple et ses iPhones d'entrée de gamme qui étaient encore avec 8 ou 16 gigas, je me rappelle même plus, il y a pas longtemps. Et à raison, parce que c'est juste pas possible. Ton truc, il est plein une fois que t'as téléchargé 3 photos, enfin pris 3 photos en l'occurrence. Bah, quand tu fais tourner les applications et quand tu vois tous les softs qui veulent laisser des choses en mémoire résidente, qui tournent en tâche de fond, etc. maintenant avec les machines modernes, 4 gigas de RAM, ce n'est pas possible.
Ouais, c'est clair.
Donc, il faut arrêter avec ce truc-là. Sur le haut de gamme, ça y est, ils ont commencé à comprendre. Normalement, l'entrée, les premières machines un peu quali, elles sont vendues avec 8 gigas. Mais rentrez ça dans votre tête et faites passer le message autour de vous pour les gens qui se disent « Ah, je changerais bien mon PC, j'ai trouvé ce truc-là à 500 balles sur c'est pas cher.net, trop bien. » Non, ne prenez pas ce genre de merde. C'est déceptif et pour l'utilisateur et pour la marque aussi d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi les marques continuent de faire ça.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, je trouve la démarche d'un point de vue marketing assez étrange. En fait, alors c'est pour forcer les gens à acheter 4 gigas de RAM en plus dès le passage à la caisse en se disant, bah, comme ça, c'est pas intégré dans le prix qui est affiché. Mais sinon, je vois pas trop non plus parce que tu te retrouves finalement avec une machine, enfin 4 gigas de RAM sur un Windows 10, c'est juste pas possible. Qui doit ramer dans tous les sens, qui fait rien tourner, ça doit être frustrant. Donc tu dois te dire, ok, c'est la dernière fois j'achète une Surface, et après tu passes de l'autre côté et tu te dis, ah mais tiens, là ça fonctionne, c'est bizarre.
Bah oui, non, mais en plus, surtout qu'on est dans une ère où on est de plus en plus avec des machines dont la mémoire est soudée à l'achat sur la bécane et non extensible.
En plus.
Donc il faut absolument faire le bon choix dès le départ, investir un peu plus pour être peinard pendant des années, et ces bouses n'ont pas lieu d'être, il faut arrêter, il faut faire en sorte que ça cesse d'exister, et faites passer le message, parce que je le redis encore une fois, c'est hyper déceptif à l'utilisation, et bon bah je pense qu'il y a une baston marketing entre prix d'appel, d'entrée pour faire un peu mousser le truc, et derrière peut-être qu'après ils rusent, hein, peut-être qu'ils sont pas disponibles en magasin, j'en sais rien, en fait ils les fabriquent pas.
C'est ça.
Mais il faut absolument pas acheter ça, c'est une cata, et quelle que soit la machine que vous utilisez en truc moderne, desktop, il faut 8 gigas maintenant, et il faut se faire une raison, et d'ailleurs acheter en ce moment ça fait plutôt mal puisque les prix ont vachement remonté sur la mémoire, mais 8 gigas c'est pas grave, ça vous ruinera pas tant que ça.
Non, et puis surtout vous verrez la différence à l'utilisation, sera quand même le jour et la nuit entre 4 et 8 gigas sur un Windows 10, enfin 4 gigas je comprends même pas.
Ouais, la semaine prochaine je vous ferai un coup de gueule sur le SSD peut-être, j'en sais rien.
Bon, et ben la semaine prochaine, on se retrouve donc comme prévu pour un nouveau Torréfaction, 30 minutes de news choisies de manière pas du tout objective. Hein. On parle un peu de ce dont on a envie de vous parler, comme sur Geekzone d'ailleurs. Tu veux peut-être rappeler qu'on peut nous aider avec des sous ?
Bah écoute, oui, le Patreon est sur la page. Voilà, c'est le gros logo en haut à gauche. Vous pouvez pas le rater, les mecs. Hein. Ou alors vous le faites exprès, et merci d'avance.
Voilà, si vous aimez ce qu'on fait, si vous écoutez aussi les autres podcasts, si vous lisez nos dossiers, nos tutos, un petit euro, 2 euros ou plus, si si vous êtes riche, hein, tous les mois, nous, ça nous permet de mettre un tout petit peu plus de parmesan sur les pâtes, puis c'est plutôt cool. Je voulais juste annoncer que lundi, si tout va bien, on aura un nouvel épisode de Ramène ta science, notre podcast scientifique. Je vous passerai la petite promo juste après.
Et puis, défonce.
Voilà.
Défonce.
Voilà, ça sera sur les troubles du sommeil et ça nous concerne au plus haut point.
Je vois pas de quoi tu parles.
Moi non plus. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, bon week-end. Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre ? Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve ? Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt ? Les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Faskill aux commandes, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur geekzone.fr.